Vous écoutez Secrets d'Histoire, Néfertiti, mystérieuse reine d'Égypte. Deuxième partie.
Comprendre l'Égypte antique, c'est comprendre ses dieux, de nombreux dieux, représentés le plus souvent sous forme humaine avec une tête d'animal. Plus ou moins important, ces dieux sont dotés, comme les humains, de caractères, parfois même de sales caractères. Ils aiment, détestent, se jalousent, complotent, se vengent, la vie en somme. Ils peuvent même faire partie d'une famille avec le père, la mère et le fils. À leur service, comme tout souverain divin qui se respecte, ils ont leur personnel, les prêtres. Maîtres d'une ville, ils adorent profiter de luxueux palais, leur temple. En contrepartie, chaque dieu a tout de même quelques obligations. Il protège et accompagne le mortel dans sa vie. La déesse Hathor, conservée au musée du Louvre, avec ses oreilles de vache, assure le plaisir, l'amour, la fécondité. C'est la préférée de nombreuses reines d'Égypte. Ne doivent-elles pas, en effet, absolument mettre au monde un héritier? Mais laissez-moi maintenant vous présenter Bès, le plus sympathique des petits génies et pourtant le plus laid. Un charmant petit monstre, son faciès léonin grimaçant est là pour faire peur et éloigner les moustiques ou le malheur. Sa laideur aussi, on le porte pour être le plus heureux des hommes. Je vous le conseille. Le culte obsessionnel de certains dieux renseigne aussi sur le caractère d'un pharaon. Le beau-père de Néfertiti, Amenhotep III, devait être fort hypochondriaque, si on en juge par le nombre de statues érigées dans le temple de Karnak en l'honneur de Sermet, qui est elle, la patronne des médecins. Une déesse à tête de lionne coléreuse, capable, si elle n'est pas honorée comme il se doit, de vous rendre mortellement malade. L'amadouer, c'est donc éviter le pire. Mais le roi des dieux, au temps de la 18e dynastie, est sans conteste Amon. Coiffé d'une couronne cylindrique et de deux longues plumes de faucon, il montre dans toutes ses représentations l'assurance et la suffisance due à son rang. C'est pourtant à lui et à ses prêtres que Néfertiti et son époux vont s'attaquer dès les premières années à la tête du royaume. Un bouleversement de croyances inédit, presque une révolution.
En l'an 7 du règne de la belle Néfertiti et d'Amenhotep IV, l'Égypte traverse une crise sans précédent. Le pharaon vient de renier la divinité principale de son empire.
Il fait détruire les statues d'Amon.
Florence Maruéjol, égyptologue.
Ça signifie qu'on veut éradiquer complètement l'existence d'un dieu.
C'est une persécution symbolique contre Amon, contre le nom d'Amon.
Le but pour lui est réellement de faire table rase du passé et d'imposer une nouvelle vision religieuse.
Mais que s'est-il passé pour que le couple royal décide de rompre avec les traditions ancestrales du pays? Des croyances millénaires, avec un nombre impressionnant de divinités préservant l'Égypte du chaos. Un panthéon dominé par un dieu surpuissant, le mystérieux Amon.
Le dieu Amon, depuis le Moyen Empire, est le dieu qui protège la royauté. C'est lui qui a la charge de désigner le roi légitime.
Dimitri Labouri, égyptologue.
Il va donc être favorisé par chaque pharaon.
Son nom veut dire le caché, parce que Amon est un dieu qui est caché dans le ciel.
Christian-Georges Fenzel, historien.
Son corps est souvent représenté en bleu, parce qu'il se confond avec le ciel, mais il peut aussi venir résider à l'intérieur de sa statue de culte, hein, qui est une véritable idole dans ce sens-là. Ce n'est pas simplement une représentation, une œuvre d'art. On pense qu'il y a vraiment la puissance divine qui peut s'installer à l'intérieur.
Implorer les bonnes grâces de la divinité est un privilège réservé au pharaon. Mais pour assurer le culte quotidien dans tous les temples du royaume, le souverain délègue cette tâche aux prêtres. Sur la rive ouest de Louxor, la reine pharaon, Hatshepsut, l'illustre ancêtre d'Amenhotep IV et de Néfertiti, a édifié un temple funéraire consacré au dieu Amon. Il conserve encore aujourd'hui toutes les caractéristiques des sanctuaires de l'époque.
La cour du temple d'Hatshepsut était, comme le reste du monument, inaccessible au public. Les temples égyptiens n'étaient pas faits pour recevoir des fidèles comme une église ou une mosquée. Il y avait un autre but dans ces temples qui était d'entretenir la statue divine.
L'idole qu'on adore est précieusement conservée dans le Saint des Saints. Les prêtres accèdent à la dernière pièce, bâtie dans un style particulièrement codifié.
Le sol s'élève vers le sanctuaire, le plafond s'abaisse et on arrive ainsi au point de contact entre la terre où vivent les hommes et le ciel où résident les dieux. Ce point de contact, c'est l'horizon où se trouve la chapelle du dieu Amon, qui contient la statue divine. Le sanctuaire a aussi la particularité d'être plongé dans l'obscurité totale pour protéger le dieu des forces maléfiques.
Un lieu mystérieux où seul le pharaon ou son représentant, le grand prêtre, peuvent accéder pour s'adresser à la divinité.
Le sanctuaire est décoré de reliefs peints qui montrent une scène d'offrande. Le roi est agenouillé avec deux vases de vin dans les mains qu'il est en train de présenter au dieu Amon. Donc c'est un des éléments qui illustre en fait ce culte quotidien qui était rendu à la statue du dieu. Tous les matins à l'aube, le grand prêtre va frapper aux portes de cette petite chapelle pour réveiller le dieu Amon, faire redescendre son esprit qui est au ciel pendant la nuit. Une fois que le dieu est réveillé, il ouvre les portes et il va opérer la toilette de la statue.
La statue va recevoir un petit déjeuner le matin, va être habillée, va recevoir des onguents et des cosmétiques, exactement comme le corps d'un véritable individu.
On organise aussi des divertissements pour le dieu. C'est le rôle des prêtresses. Elles chantent, elles dansent. Elles ont même un contact, semble-t-il, avec l'idole du dieu pour l'exciter, pour qu'il ne perde pas sa vitalité, sa toute-puissance, puisque c'est un grand dieu créateur. Il faut entretenir en même temps cette puissance divine, d'où le rôle des prêtresses, qui sont les épouses d'Amon.
Avec toutes ces attentions particulières accordées au dieu Amon, le clergé va lui aussi, au fil du temps, renforcer son pouvoir. Le temple de Karnak est le principal sanctuaire de la divinité. Il devient alors un véritable état dans l'état, administré par le grand prêtre.
Le grand prêtre est aussi une sorte de grand patron, de PDG. Il gère des activités extrêmement diverses et très, très matérielles. Il y a notamment des territoires qui sont exploités par le clergé avec des ressources agricoles extrêmement importantes. Il y a aussi des ateliers d'artisanat, il y a des brasseries, des boulangeries. On peut même louer des chanteuses, des musiciennes pour les banquets. On peut louer des pleureuses pour les enterrements. Et dans certains temples, il y aurait même eu des prostituées. Donc tous les moyens sont bons pour le clergé, pour accroître sa richesse.
Ces prêtres qui ont des moyens vertigineux font finalement ce qu'ils veulent.
Philippe Séguy, écrivain.
C'est un contre-pouvoir excessivement important avec lequel les pharaons auront l'obligation de compter durant la totalité de leur règne.
Cette puissance du clergé d'Amon est à son zénith au début du règne d'Amenhotep IV. Elle serait même susceptible de pouvoir le renverser.
Il semble que sa légitimité ait été remise en question et qu'il ait décidé de se placer sous la protection d'une divinité dont il a le seul accès, dont il est le seul porte-parole, et qu'ainsi, sa légitimité en tant que souverain ne puisse plus être remise en question.
la guerre contre le clergé de Thèbes est déclarée. Amon, dieu surpuissant, est écarté par le couple royal au profit d'une ancienne divinité remise au goût du jour. Une divinité associée cette fois non plus au mystère, mais à la lumière et à la vie, Aton.
Le nom d'Aton est déjà connu, hein, c'est un terme égyptien, c'est un nom commun qui désigne le disque solaire tel qu'il apparaît à l'horizon dans le ciel.
Ce fameux disque solaire, qui est en Égypte une évidence absolue, comment en effet dans un pays pareil ignorer le soleil ? Il est à la fois capable de faire croître les récoltes, mais de les brûler également. Il est donc principe de vie et de mort. Eh bien, ce disque solaire va devenir véritablement une obsession pour le jeune pharaon. Il va placer Aton au centre de son propre cœur.
Un changement radical pour toute la population égyptienne. Dans la vallée des nobles, Ramosé, le vizir du roi, a fait décorer sa tombe au fur et à mesure de sa vie. Des murs qui présentent des décorations exceptionnelles. Un témoignage rare de la transition entre les deux croyances.
Sur cette scène à gauche du passage, on peut voir en fait une représentation d'Amenhotep IV encore figurée de manière traditionnelle.
Marie Nyoyot, égyptologue.
Assis, portant vraiment tous les insignes de la royauté. Et juste derrière lui, également assis sur un trône, la déesse Maat, qui appartient vraiment au panthéon des dieux égyptiens polythéistes et qui va être figurée avec une plume sur sa tête.
Et lorsque les croyances changent, le haut dignitaire adopte lui aussi la nouvelle foi du couple royal.
Dans la partie droite du passage, on voit une scène qui va devenir vraiment traditionnelle pour la période d'Amenhotep IV, c'est-à-dire le dieu Aton en train de répandre ses rayons bienveillants sur le couple royal Amenhotep IV et Néfertiti.
Contrairement aux autres divinités, le dieu Aton ne s'incarne pas soit comme un homme ou un animal, il prend la forme abstraite du disque et le seul élément qui rappelle encore l'homme, ce sont les mains et ses mains tendent le souffle de la vie et après c'est le roi qui se chargera de redistribuer la vie aux êtres humains.
Néfertiti a réellement adhéré au culte d'Aton. On la voit extrêmement impliquée dans toutes les cérémonies.
Virginie Giraud, historienne.
D'ailleurs, elle-même a une place prépondérante dans ce culte. Elle accompagne toujours son mari dans toutes les représentations que l'on a d'eux lors d'offices religieux.
Ces nouveaux reliefs nous dévoilent aussi un autre aspect de cette réforme. À présent, la sublime Néfertiti et le jeune Amenhotep IV ne sont plus uniquement les représentants du dieu, mais sa véritable incarnation sur terre.
Tu me vois, tu vois Aton. Tu me pries, tu pries Aton. Je suis moi, Amenhotep, et moi, Néfertiti, seul capable, à toi l'Égyptien, de te donner ce que tu veux. Je suis en quelque sorte l'incarnation divine qui permet à l'Égypte simplement de vivre.
En devenant eux-mêmes des dieux, plus personne n'est en mesure de contester leur ordre ou leur autorité. Ils sont littéralement au-dessus de tous les êtres humains.
Une fois leur nouveau statut déclaré, le couple royal décide de créer un lieu inédit pour honorer leur divinité. C'est aux portes du Saint des Saints d'Amon, le temple de Karnak, qu'ils choisissent d'édifier ce sanctuaire. Sous les yeux d'un clergé impuissant, Néfertiti et Amenhotep IV révolutionnent encore une fois toutes les traditions.
Désormais, les temples d'Aton sont formés d'une succession de cours à ciel ouvert. Donc ce sont des salles qui vont se succéder avec quantité d'autels. C'est un bouleversement complet de l'architecture dans l'histoire de l'Égypte.
Pour rendre évidente au peuple sa toute nouvelle dévotion, le pharaon décide également de changer de nom. Un acte exceptionnel dans l'histoire égyptienne.
Le nom d'Amenhotep IV signifie « Amon est en paix ». Donc, il était absolument illogique qu'il continue à porter ce nom en contradiction totale avec la nouvelle idéologie. Donc, Amenhotep est remplacé par Akhenaton, ce qui veut dire « il est profitable » ou « il est utile à Aton ». Donc là, on a clairement l'affirmation, évidemment, de l'importance de ce dieu qui sera le seul protecteur, dès lors, du pharaon.
Progressivement, puis de plus en plus rapidement, les anciens dieux traditionnels de l'Égypte vont être en quelque sorte effacés les uns après les autres pour faire place à cette promesse, je dirais que l'on pourrait déjà qualifier avec prudence de monothéiste, c'est-à-dire l'adoration d'un seul dieu, principe de toute existence.
À ce moment-là, on va commencer à proscrire le dieu Amon, c'est-à-dire qu'on va commencer à lancer des équipes à travers toute l'Égypte pour marteler les effigies et les mentions du nom de l'ancienne divinité tutélaire de la royauté égyptienne, le dieu Amon.
Une campagne qui n'épargne pas les lieux emblématiques de Thèbes, la capitale religieuse. À commencer par le temple de Louxor, pourtant bâti par le propre père d'Akhenaton. Les cartouches d'Amenhotep III sont effacées. Le nouveau souverain ne veut plus faire référence au dieu maintenant proscrit. Pire encore, il décide de s'attaquer au temple même d'Amon, à Karnak. Des stigmates pour la plupart restaurés depuis, mais dont il subsiste aujourd'hui quelques traces.
Le fait de se séparer du clergé d'Amon, puisque finalement Amon n'est plus une divinité adorée sous le règne d'Akhenaton, c'est une façon de leur dire qu'ils n'ont plus aucun pouvoir. Donc Akhenaton va désormais régner seul.
Le couple royal décide même d'aller plus loin. Pour se libérer définitivement d'Amon et de ses prêtres, il choisit de quitter Thèbes et de fonder une nouvelle capitale au bord du Nil, en plein cœur du désert égyptien.
Imaginez ce qu'a dû être pour les Égyptiens du Nouvel Empire, habitués à cette multitude de dieux, une telle révolution théologique. Un pharaon accompagné de la plus belle, qui décide soudainement de changer de nom, de changer de capitale, et même de changer d'aspect. Oui, car physiquement aussi, le couple royal souhaite montrer une réelle évolution. Néfertiti et son époux cherchent à gommer les différences entre un homme et une femme, entre un roi et une reine. Le couple est ainsi l'un en face de l'autre, à la même hauteur, ce qui prouve une égalité par rapport à tous ces rayons qui les illuminent. La coiffe de la reine permet de la distinguer, mais surprise, c'est elle qui possède le trône le plus précieux, le plus travaillé. Pourquoi ? Son pouvoir est-il aussi important que celui du pharaon qui est assis sur une simple chaise ? Autre détail surprenant, c'est Néfertiti qui symboliquement tient leur fille aînée sur ses genoux, l'héritière, et non le roi. Un signe encore d'une certaine prédominance. Enfin, on s'aperçoit que leurs profils sont volontairement identiques. Même lèvres charnues, même menton proéminent, lui et elle, confondus en une même divinité. Un véritable manifeste. On imagine toujours les villes et les palais antiques égyptiens couleur sable ou pierre, comme on peut les observer aujourd'hui. C'est oublier comme ce peuple aimait la couleur. Chaque mur, chaque sol d'habitation était éblouissant. Dans cette nouvelle capitale d'Égypte sortie des sables, on célèbre avant tout l'amour de la vie et la lumière. Un monde enchanté et harmonieux, baigné par les rayons du disque solaire, que la reine et le roi ne cessent d'adorer dès le lever du jour.
Nous sommes en l'an 5 du règne de Néfertiti et d'Akhenaton. Le pharaon, accompagné de ses hauts dignitaires, cherche en plein désert un nouveau territoire où s'établir.
Akhenaton décide de jeter les fondations d'une nouvelle capitale. Il ne peut plus vivre à Thèbes. Il décide d'aller installer sa capitale au cœur de l'Égypte, hein, sur le site d'Amarna, qu'il va baptiser Akhetaton, c'est-à-dire l'horizon d'Aton.
Une capitale dont le roi délimite les frontières grâce à des bornes, uniques dans toute l'histoire égyptienne. 14 stèles, qui livrent de nombreux détails exceptionnels sur la genèse de cette nouvelle ville voulue par le couple royal.
La stèle à proprement parler va être gravée de lignes de texte surmontées d'une représentation du dieu Aton qui fait bénéficier ses rayons au couple royal Akhenaton et Néfertiti.
Sous ces représentations, dans la roche haute de plusieurs mètres, le pharaon fait graver un véritable décret. Des hiéroglyphes qui révèlent les nouvelles ambitions de la belle Néfertiti et du roi.
On a vraiment l'impression que ces inscriptions étaient gravées en haut dans la montagne pour qu'elles soient bien visibles de tous et que le message clairement affiché par Akhenaton et Néfertiti puisse être montré à la population.
Dans le décret de fondation que le roi décide d'édifier à cet endroit, il précise qu'il ne prend ce territoire à personne, ni un dieu, ni un humain. Et c'est même l'objectif du roi d'utiliser un territoire vierge pour le dédier entièrement à sa nouvelle divinité, le dieu de la lumière, Aton.
Le couple royal s'attelle immédiatement à la tâche et ordonne la construction de nombreux sanctuaires pour honorer leur dieu. Ces quelques vestiges dévoilent l'emplacement d'un des premiers temples dédiés à Aton. Mais les fouilles archéologiques révèlent aussi un projet architectural bien plus vaste sur le site appelé aujourd'hui Tell el-Amarna.
Tell el-Amarna, c'est surtout un palais.
Marc Gabold, égyptologue.
Le palais et tout ce qui permet à ce palais de fonctionner, donc c'est beaucoup plus proche de Versailles que de Paris. C'est l'endroit où réside le roi, avec tout ce qui permet l'intendance pour faire vivre un palais.
Il faut aménager les résidences des dignitaires, des fonctionnaires, des soldats, des artistes. Donc vraiment, c'est une ville, une capitale importante qu'il faut construire en un temps record.
Et ce qui est fascinant, c'est que cette ville est née du désert. En 4 ans, cette ville est capable d'accueillir plus de 20 000 habitants.
Dans cette nouvelle capitale, Néfertiti et Akhenaton s'aménagent de somptueux palais. Une résidence royale dont on trouve aujourd'hui la trace dans la partie nord de la ville. Des vestiges qui nous laissent deviner le faste des appartements du roi et de la reine.
On peut imaginer le palais de Néfertiti avec des places pour les enfants, des emplacements pour les serviteurs, des salles de bain, des salles d'apparat de réception, puisque la reine peut recevoir dans son palais.
Une vie autonome, loin de son époux. Comme le veut la coutume royale, le couple ne vit pas ensemble. Chacun dispose de son propre palais, une véritable distinction des pouvoirs.
Akhenaton avait un palais encore plus au nord, simplement ils sont séparés par 700 mètres de distance. Pour se rejoindre, ils empruntaient la voie royale qui était ensuite utilisée pour effectuer tous les rituels quotidiens et se déplacer le long de la ville d'Amarna.
Ça permet toute une mise en scène parce que le roi et la reine font des allers-retours entre ces deux palais. Ça leur permet de se montrer aussi au moins 2 fois par jour à leur sujet. On a des représentations d'Akhenaton et de Néfertiti. Chacun est debout sur son propre char, hein, comme des astres suivant le principal axe dans cette nouvelle capitale qui relie les palais.
Ces apparitions quotidiennes permettent au peuple de vénérer leur souverain. Le couple royal se fait également représenter sur tous les murs de la ville.
On voit sur tous les reliefs des bâtiments publics le pharaon, la reine, qui sont toujours en quelque sorte bénis par ce disque solaire Aton qui se trouve au-dessus d'eux.
Des images des souverains qui marque un changement notable dans l'art égyptien. En rupture avec le passé et les représentations toujours identiques des pharaons, Akhenaton et Néfertiti choisissent d'innover. Ils se dessinent pour la postérité un nouveau physique des plus étranges.
Son visage est très étonnant, il a des yeux en amande, une bouche charnue, un menton proéminent, une sorte de mâchoire chevaline. Son corps également est un peu déformé, enfin, il a des seins, il a un ventre aussi qui déborde par-dessus sa ceinture. On a là, de toute évidence, des représentations androgynes.
Nefertiti va aussi, dans ses représentations, dans sa statuaire, avoir les traits quasiment identiques, jusqu'à ne plus pouvoir d'ailleurs les différencier de son mari.
Le but est de faire en sorte que quiconque voit ces reliefs reconnaisse immédiatement la famille pharaonique et puisse reconnaître aussi cette révolution culturelle qu'il est en train d'impulser. Et d'ailleurs, il a très bien réussi puisque encore aujourd'hui, on reconnaît très facilement l'art amarnien.
La donne va également changer dans la manière dont Nefertiti se montre finalement au peuple. Nefertiti ne porte plus ce que les anciennes reines d'Égypte portaient.
Elle est habillée avec des vêtements de lin très fins qui étaient tissés spécialement pour le roi, donc qui étaient presque transparents, avec des beaux plissés qui mettent en valeur les formes de la souveraine.
Une apparence chargée en symbolique, que la reine et le pharaon exaltent encore davantage, avec des bijoux resplendissants.
Comme Pharaon porte le grand pectoral, qui est une des insignes, je dirais, de son règne et de son état, eh bien, Nefertiti, pareil, porte les mêmes parures.
Donc il faut imaginer des plaques pectorales avec le nom du roi et de la reine, avec les hiéroglyphes faits dans différentes pierres, des petites figurations en lapis-lazuli, avec de la turquoise, de la cornaline, dans un art très délicat.
Il était d'usage aussi de porter des bracelets au poignet, parfois également sur le haut des bras, les boucles d'oreilles aussi, des bagues en or. Donc c'est aussi le travail des orfèvres qui font que ces bijoux sont particulièrement précieux.
Ce savoir-faire, vieux de plus de 3000 ans, inspire jusqu'à aujourd'hui les plus grands créateurs. Le joaillier Louis Cartier intègre dans les années 20 cette fascinante iconographie égyptienne dans ses bijoux les plus raffinés.
Je pense que la profondeur des symboles que véhicule la culture égyptienne sont toujours là.
Pierre Renéro, directeur du style et du patrimoine de la Maison Cartier.
Fascine toujours autant et se retrouve dans des créations contemporaines, dans notre langage créatif.
Une créativité à son apogée à l'époque d'Akhétaton. Les fouilles des anciennes villas destinées aux nobles permettent de mieux imaginer le luxe inouï et somptueux de cette nouvelle capitale égyptienne.
La noblesse égyptienne est arrivée à un degré de sophistication et de raffinement rarement égalé. Il s'agit de célébrer à ton nom, pas dans le dépouillement, mais au contraire dans la beauté. Et cette beauté se doit d'être manifestée au quotidien. La cour sent bon, la cour est belle, la cour mange des mets infiniment délicats d'une manière quotidienne.
Une gastronomie raffinée, dont les tombes peuvent nous fournir de précieux détails. Sur les parois de la tombe de Mena, des scènes d'une rare qualité lèvent le voile sur les us et coutumes culinaires de l'Égypte ancienne.
Ce qui est intéressant avec ces peintures, c'est qu'elles nous montrent, par exemple, différents produits, pas tous, mais certains produits qui existaient à l'époque. Le poisson, par exemple, est très abondant dans le Nil. Il y a également des fruits et des légumes, des dattes ou des raisins, des pains, des œufs.
On aime beaucoup aussi à l'époque les canards sauvages grillés. Donc ça, c'est un mets tout à fait réputé. Et puis, on boit beaucoup de vin, un vin de grande qualité apparemment, sans doute assez cher, parce que le peuple en boit très peu, voire pas du tout, donc c'est vraiment la boisson des riches.
Le peuple est quasiment végétarien, donc il va se nourrir essentiellement de pain et de bière, qui sont la nourriture de base. La viande, elle, est réservée à l'aristocratie, et notamment à la famille pharaonique.
À Amarna, ces mets sont même pour la première fois glorifiés par la famille royale. En témoigne la représentation d'une princesse dévorant son canard avec joie. Une image anodine qui possède pourtant un message religieux hautement symbolique.
Il y a vraiment une volonté de montrer le quotidien des souverains. Et cela fait sens parce qu'ils sont quasiment divins eux-mêmes. Et donc, on les montre dans leur vie exactement comme on aurait montré autrefois les représentations des dieux dans leur quotidien.
Vous venez d'écouter Secrets d'Histoire. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée. Secrets d'Histoire est un podcast d'Initial Studio, adapté de l'émission de télévision éponyme, produite par la Société européenne de production. Cet épisode a été écrit et réalisé par Dominique Leb. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Mandy Lebourg, assistée de Marie Agassan. Montage, Victor Benamou, avec la voix d'Isabelle Benadj.